La foi des mages brille à cause de deux grandes épreuves auxquelles elle fut soumise et dont elle triompha. D'une part, l'indifférence de Jérusalem et d'autre part, la pauvreté à Bethléem. Eh bien, chers amis, notre foi, nous aussi, doit triompher. Notre foi dans la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie doit aussi triompher de ces deux grandes épreuves. Alors tout d'abord, en homme sage, les mages se dirigent vers la capitale de Judée. Ils s'attendent à voir tout Jérusalem dans la joie. Mais que se passe-t-il ? Aux surprises, aux déceptions, rien n'indique la naissance de ce grand roi. Jérusalem est silencieuse. Peut-être qu'ils se sont dit, mais est-ce qu'on va se moquer de nous si nous annonçons le but de notre voyage ? Mais non. En homme de foi, il demande à tout Jérusalem, où est le roi qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever et nous sommes venus se prosterner. Mais à Jérusalem, personne n'est au courant de cette naissance. Voilà la première grande épreuve pour la foi des mages, et reconnaissons que c'est aussi une épreuve pour nous, l'indifférence du monde par rapport à la présence réelle de Jésus ici dans la Sainte Hostie. Deuxième épreuve pour les mages, l'humiliation à Bethléem. En suivant l'étoile, en arrivant dans l'étable, peut-être qu'ils s'attendaient à voir toutes les splendeurs du ciel si le roi du ciel vient naître sur la terre. Mais encore une fois, aux surprises, aux déceptions, que voit-il ? Une pauvre femme avec un nouveau-né couché dans la paille comme l'agneau qui vient de naître. Troublés, que font-ils ? Ils regardent Marie. Alors ils comprennent, et voici qu'ils se prosternent devant l'enfant Dieu, et dans cette grande joie, ils déposent leur trésor, leur or, leur encens et leur myrrhe. Pour nous aussi, eh bien, nous devons triompher de cette grande épreuve de la pauvreté de Jésus sous les saintes apparences du pain. Comment se fait-il que le roi du ciel choisisse de venir à nous encore aujourd'hui sous ces apparences si pauvres de la petite hostie ? Alors, notre Dieu, qui est le Tout-Puissant, choisit de se faire le tout faible. On le trouve nu. À Bethléem, on le trouve nu sur une croix et nu au Saint-Sacrement. Ces trois nudités sont en fait les trois reposoirs de la miséricorde, les lieux où notre Dieu se révèle. Personne sinon Dieu aurait pu inventer une religion où Dieu est présenté comme un perdant. Un enfant dans une crèche entre un âne et un bœuf, c'est pas très brillant. Un homme sur une croix entre deux criminels, c'est pas très glorieux. Et notre Dieu caché, souvent ignoré, inconnu du monde sous les saintes apparences du pain. Et pourtant, c'est lui qui nous appelle, qui nous attend, qui nous désire. C'est lui qui disait ici même, j'ai soif, et d'une telle soif d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume. Alors nous avons ici, à Paray-le-Monial, cette chance d'avoir plusieurs lieux saints, bien sûr la chapelle des apparitions, un lieu particulièrement béni, mais aussi ce lieu d'adoration permanent à la chapelle Saint-Jean, où les adorateurs viennent prier d'heure en heure, jour et nuit. Mais pour que cette chapelle puisse continuer dans le temps, nous avons besoin de quelques nouveaux adorateurs qui sont prêts à donner une heure chaque semaine. Si parmi vous des personnes veulent se rajouter à la chaîne des adorateurs pour répondre à cette soif de Jésus d'être aimé dans l'Eucharistie, tout en le reconnaissant bien présent, eh bien, nous vous solliciterons à la fin de cette petite prédication. Alors, une heure chaque semaine devant le Saint-Sacrement, certains peuvent dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Sachons que Jésus est bien la personne la plus facile à rencontrer, à aimer, à adorer. Nous pouvons certes nous aider d'un livre de prière pour entrer dans cette prière d'adoration. Nous pouvons aussi demander à la Vierge Marie de nous conduire par une prière mariale pour adorer son Fils, ou alors nous pouvons méditer les saints évangiles. Regardons comment les mages, comment les amis de Jésus ont approché Jésus il y a 2000 ans. Imitons-les, regardons comment ces mages reconnaissent, à travers, malgré l'indifférence du monde et la pauvreté de Bethléem, ils reconnaissent leur Seigneur. Imitons-les en méditant les saints évangiles, ou les autres passages où nous voyons comment les amis de Jésus ont approché Jésus il y a 2000 ans, sachant que Jésus nous bénira de la même manière qu'il a béni ces personnes lorsque nous venons l'adorer aujourd'hui. Les mages comprennent, ou nous montrent plutôt, le grand commandement de la Bible. Tu adoreras le Seigneur, à lui seul tu rendras un culte. Que font-ils? Si nous regardons, il y a comme trois étapes dans leur adoration. D'abord, ils se prosternent humblement, ensuite ils donnent leur présent, et ensuite ils se donnent eux-mêmes à cet enfant Dieu. Ils déposent aux pieds de Jésus peut-être leurs idoles, leur argent, leur richesse humaine, pour être libres, tout simplement, de suivre Jésus, de servir notre Seigneur. Le pape Benoît XVI disait « L'adoration eucharistique n'est pas un luxe, mais une priorité aujourd'hui. » Il disait ceci, je recite une de ses références, une de ses citations, il disait « L'adoration est le remède le plus valable et le plus radical contre les idolâtries d'hier et d'aujourd'hui. S'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre. Nous, les chrétiens, nous nous prosternons devant un Dieu qui s'est d'abord penché vers l'homme pour le secourir, lui redonner vie. Il s'est agenouillé devant nous pour nous laver nos pieds sales. Celui devant lequel nous nous prosternons ne nous juge pas, il ne nous écrase pas. Au contraire, il nous libère et nous transforme. » Nous comprenons aussi ce qu'est une chapelle d'adoration continue, comme nous avons ici à Paray-le-Monial, avec ce passage, un autre passage dans l'Ancien Testament, où Moïse luttait contre les Amalécites. Vous vous souvenez que lorsqu'il élevait les bras vers Dieu, le peuple d'Israël avait l'avantage sur ses ennemis. Et à un moment, il est dit que les bras de Moïse s'alourdissaient. Et ce sont les ennemis d'Israël qui ont l'avantage sur le peuple saint de Dieu. Alors, Moïse va demander à Aaron, à Hur, de maintenir ses bras tendus vers Dieu, de sorte que sa prière soit incessante, continue, permanente. Et à ce moment-là, il est dit que le peuple d'Israël obtient la victoire totale. Nous comprenons dans cet autre passage de l'Ancien Testament que c'est toujours Dieu qui donne la victoire, qu'elle se réalise certes sur le terrain, à travers tous nos engagements, mais qu'elle passe par les intercesseurs. Et si ceux-ci interrompent leur intercession, il manque quelque chose pour que la victoire qui vient de Dieu puisse se réaliser sur terre. Alors c'est pour ça qu'on a cette chapelle continue, où nous avons non pas un adorateur à droite et un adorateur à gauche de nous, mais une personne avant nous, une personne après nous, de sorte qu'il y a toujours un Moïse sur la sainte montagne, un intercesseur, un priant, quelqu'un qui porte l'Église, le monde, pour que Dieu lui donne sa victoire, son amour, sa miséricorde, sa lumière. Enfin, quelle que soit l'heure que nous pouvons donner à Jésus dans l'Eucharistie, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit, elle apporte une grande joie au cœur de Jésus. Mais je tiens à faire aussi un appel pour les heures les plus difficiles, celles de la nuit, sachant que Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Plus nous sommes généreux avec le bon Dieu, plus il nous comble de ses grâces, de son amour, de sa paix. Comprenons que s'il y a 2000 ans, le Christ a été levé dans la haine, sur une croix, le fait de venir dans une heure difficile, par exemple de la nuit, l'élève aujourd'hui dans l'amour, l'action de grâce, la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, et il déverse sur notre terre les fruits, les mérites de sa passion. Et aussi, c'était au milieu de la nuit que Jésus demande à ses disciples endormis, « Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Enfin, les mages, l'Évangile nous dit qu'ils vont repartir par un autre chemin. En effet, après avoir rencontré le roi du monde, le sauveur, après l'avoir adoré humblement, ils prennent un autre chemin. Nous aussi, chers amis, chaque fois que nous venons adorer l'enfant Dieu qui se donne dans l'Eucharistie, eh bien notre chemin est nouveau. Le Seigneur nous conduit vers un nouveau chemin de service et d'annonce de son nom. Alors, nous allons maintenant, comme je disais au tout début, faire passer des petites invitations. Comme je disais, si parmi vous, des personnes souhaitent se rajouter à cette chaîne de prières et d'adoration, je crois qu'on a besoin d'à peu près une quinzaine de nouveaux adorateurs, même s'il y a déjà beaucoup d'adorateurs peut-être ici présents, nous avons besoin de savoir si des personnes veulent se rajouter. Alors, si vous pouvez, les deux ou trois personnes, voilà, passer des papiers. Alors, c'est pas pour ceux qui sont déjà adorateurs. Vous avez, dans ce cas-là, il faut continuer ce service de la prière. Mais si parmi vous, des gens veulent donner une heure par semaine, et on a besoin de quelques heures qui sont vides, dans ce cas-là, vous pouvez prendre un papier, nous donner votre nom et téléphone, et on vous rappellera tranquillement. Là, je sais, on fait les choses un peu vite. Mais voilà, on vous rappellera tranquillement et au téléphone, on pourra vous dire les heures qui restent vides et vous pourrez dire si vous voulez donner une heure chaque semaine pour adorer le roi de l'univers qui se donne sous les apparences du pain dans l'Eucharistie, dans notre cœur à la messe et qui nous appelle à l'adorer au Saint-Sacrement. Voilà, donc on a besoin de votre nom, téléphone, et on vous rappellera un peu plus tard. Voilà, ceux qui ont répondu à ces petites invitations, vous pourrez aussi déposer ces papiers dans les paniers de la quête. C'est comme une offrande spirituelle, une heure de notre temps pour Jésus. Merci beaucoup.